Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Yves sur Air du Roi pour l'interview. Aujourd'hui, nous sommes en communication avec Michel Benizri. Bonjour.
Bonjour, chers auditeurs.
Michel Benizri, vous êtes comédien, metteur en scène et auteur également. Et vous exercez depuis bien 4 décennies. Et vous êtes tourné sur le texte, le théâtre et aussi les médias, hein, comme la télévision ou parfois tout ce qui est représentation audiovisuelle. Et vous êtes là aussi pour nous parler d'un spectacle que vous allez donner à dit ce 23 janvier à l'espace Séverine Baumier et qui s'intitule « Moi, français, juif, arabe », une proposition qui existe depuis 2021.
Alors, en fait, le titre complet, c'est bien « Moi, français, juif, arabe, comment j'ai démissionné du sionisme ?» Donc, avec un point d'interrogation. C'est un spectacle que j'ai créé, avant le Covid. Et j'ai fait une formation, si vous voulez, qui m'a conduit à faire ce spectacle, une formation à la conférence que j'ai titulée. Je vous dirai 2 mots ensuite sur ce que c'est. Et puis, dès que le spectacle a été prêt, c'est-à-dire pratiquement pendant toute l'année 2019, j'ai travaillé dessus, retravaillé, fait 6 versions successives et différentes. Et quand le spectacle a été prêt, je devais partir en tournée, mais il y a le Covid. Et ce qui fait que pendant presque 2 ans, je n'ai pas pu le tourner. Et finalement, j'ai redémarré en septembre 2021. J'ai commencé à tourner ce spectacle.
Alors,
donc, qu'est-ce que c'est qu'une conférence gesticulée? Voilà. c'est parfois un spectacle, mais parfois pas forcément. En tout cas, c'est une prise de parole publique, qui est politique, on peut dire anticapitaliste, hein, de toute façon, et qui se situe de manière tout à fait personnelle, avec une analyse politique et un récit personnel. Et d'une certaine manière, le concept, si vous voulez même, de conférence gesticulée, c'est de témoigner de sa propre expérience comme d'une expertise, et de ne pas seulement attendre les experts officiels et autorisés, mais tout le monde, de par sa pratique, peut devenir, d'une certaine manière, à partir du moment où il y a une analyse, aussi expert de sa propre compétence. Donc, en fait, moi, étant né juif, dans une famille juive pratiquante, j'y ai grandi, je devais naturellement être sioniste. Or, politiquement, je n'étais pas d'accord avec les positions des gouvernements de droite successifs, voire d'extrême droite maintenant, là-bas, et en fait pris dans un conflit finalement de loyauté entre être né juif, même si aujourd'hui je suis ni croyant ni pratiquant, hein, mais faisait de moi obligatoirement un supporter invétéré et inconditionnel de la politique israélienne. Il se passe que, jusqu'au 7 octobre dernier, il y avait non pas la paix, mais une sorte de statu quo dans l'oppression et des Palestiniens, et on peut dire aussi un statu quo au niveau des colonies, même si petit à petit, ça grignotait encore. L'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre a déclenché la reprise ou l'intensification d'une guerre qui ne s'était jamais réellement arrêtée. Et ce spectacle, ce dont il parle, c'est à la fois de tout ce chemin de l'enfant à l'adulte, mais aussi de comprendre les origines de l'antisémitisme qui ont conduit, elles, au sionisme et à la création de l'État d'Israël en 1948, et tout le chemin ce chemin étant un chemin colonial, bien entendu, et qui conduit à des actes coloniaux encore aujourd'hui. Et en même temps, ben, un autre fil qui est finalement lié directement à mon métier, au fait que je suis on peut le dire, un raconteur d'histoire. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire? Et comment la petite et la grande se confondent au service de récits qui parfois ne sont pas toujours les meilleurs amis. Ou en tout cas, c'est intéressant de questionner au service de quoi ou de qui ces récits sont là, comment on peut prendre comme le récit national ou les récits religieux, qui sont aussi du coup des instruments de domination. Donc voilà, la conférence gesticulée est parfois un spectacle selon les personnes qui l'animent, et puis parfois pas un spectacle, c'est vraiment juste une prise de parole, mais c'est quand même une analyse forte qui tente de décrypter et de démonter les rouages de domination dans notre monde. Voilà.
Le sionisme, quelle définition donneriez-vous justement aux auditeurs? Parce qu'il y a parfois la confusion entre sionisme et antisémitisme.
Alors, bah, il y a dans un cas, le sionisme est une pensée politique, l'antisémitisme est purement et simplement du racisme. Donc en fait, c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. On peut être sioniste ou antisioniste, dans tous les cas de figure, être aussi antisémite ou pas du tout antisémite. Ceci n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on peut être républicain en France et aussi antisémite. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux choses différentes. Donc, clairement, il y a une fainéantise intellectuelle de vouloir confondre antisionisme et antisémitisme. En France, il y a principalement deux entités représentatives des institutions juives de France que l'on connaît. On en connaît une qui est le CRIF, hein, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui en fait est la voix de son maître, c'est-à-dire qui est clairement identifié comme un groupe de pensée très à droite, très conservateur, réactionnaire. Et puis en face, il y a quelques autres groupes, alors certains diront groupuscules, dont un qui s'appelle l'UJFP, l'Union des Juifs de France pour la Paix, qui est clairement identifié à gauche et qui se situe comme étant clairement antisioniste. Antisioniste parce que, reprenons quelques mots anciens déjà, quand on a pu dire qu'un État a promis à... Non, en fait, ce n'est pas un État, c'est une nation. En l'occurrence, la nation britannique. Une nation a solennellement promis à une seconde le territoire d'une troisième. C'est Arthur Kessler qui avait dit ça. L'auteur journaliste. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire une nation a solennellement promis à une seconde le territoire d'une troisième? Ben, ça veut juste dire que le racisme, en l'occurrence, c'est envers il s'inscrit à l'intérieur d'une problématique nord-sud et que des populations blanches dominantes, des Français, des Allemands, des Anglais, ont trouvé dans le sionisme une réponse au problème juif en Europe. C'est-à-dire, leur donner un territoire, c'est favoriser le départ des juifs d'Europe. Donc, il y a eu la Seconde Guerre mondiale avec la Shoah, et là, tout le monde était quand même sacrément dans la merde. Et effectivement, leur donner un territoire, bah, c'était à la fois se donner une bonne conscience, voire mettre en place un instrument de réparation, et puis... Bon, de toute façon, en reprenant les termes de Lord Balfour, hein, de novembre 1917, qui disait quand même, bon, les Arabes, c'est un peuple arriéré, ce sont des indigènes qui se soumettront facilement. Voilà. En vérité, le sionisme, au départ, c'est donc une pensée politique, où de nombreux juifs n'étaient pas du tout pour, hein, le fait d'aller s'installer à Sion. Sion, il y a Jérusalem, c'est une colline, hein, un peu comme, comme nous, on a dans notre récit national Roland à Roncevaux. Hein. Roncevaux, c'est dans les Pyrénées, c'est une montagne, ça marque les esprits. Sion, c'est une colline qui est autour de Jérusalem et par, par Israël, Sion, c'est Jérusalem, Jérusalem, c'est les Juifs. Et donc, Sion, le sionisme. Voilà. je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications, mais
Non, mais
grosso
c'était
modo.
pour justement bien placer le sens des termes. Hein. Et puis, il y a
Oui.
ce texte. Est-il de vous ou est-ce que vous avez aussi travaillé avec d'autres personnes pour proposer cette conférence gesticulée?
Alors, ce texte, c'est un texte que j'ai écrit moi-même, avec mes petites mains. Bien entendu, j'ai pas travaillé seul, mais j'ai ma compagne qui m'a accompagné et avec qui, à des moments, bien entendu, il y a eu des allers-retours et puis ensuite des allers-retours aussi avec le plateau, puisque un texte, ça se confronte à la réalité du, de, enfin, quand on est comédien, en tout cas, moi, je peux pas faire autrement. Le texte s'est confronté à la réalité de la scène, donc il y a aussi eu pas mal de modifications. Et c'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, entre la sortie de chantier, c'est-à-dire la toute première version de l'écriture de ce spectacle, et puis là où tel qu'il est aujourd'hui, il y a eu 6 versions différentes. Je peux même dire qu'en fait, toute cette histoire, elle a commencé en moi il y a très très longtemps, mais j'ai fait en 2017 une résidence d'écriture autour de ce travail déjà. Au théâtre du Rond-Point à Valréas, donc c'est vrai que c'est pas très très loin de chez vous. Pendant, je sais plus, une semaine ou 10 jours, j'ai travaillé là-bas. Et à l'issue de cette résidence d'écriture, j'avais fait une présentation. En vérité, j'ai donné un cours d'histoire qui durait 2 heures et qui était très chiant. Mais au moins, cette séquence d'écriture m'a permis de remettre à plat toute la partie historique depuis l'Antiquité, on pourrait dire, depuis l'Antiquité, remonter en passant par l'époque romaine, Jésus, la chrétienté, et donc voilà toutes les guerres qui ont pu avoir lieu là-bas, etc. Comment, quel a été le chemin, hein, d'un point de vue historique, et des Juifs, et en même temps de l'idée de la diaspora, donc. Du fait d'avoir été banni, est-ce que c'est voilà, enfin bon, bref, tout ce travail, et puis qu'est-ce qu'a été l'antisémitisme en Europe et comment il est né, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, les chrétiens se sont mis dans un processus de haine vis-à-vis des Juifs. Donc ça a été avec le pape Innocent III en 1215, pour être très précis. On est dans des conflits politiques, en fait. L'idée, c'est d'asseoir l'influence politique de la chrétienté en Europe. Et donc, on va discriminer tous ceux qui ne sont pas chrétiens, et donc les juifs, entre autres, mais aussi les musulmans, mais aussi les cathares. Voilà.
Alors, cette conférence gesticulée se nourrit de l'histoire de cette terre hein,
Ouais,
d'Israël.
ouais.
Mais est-ce que vous êtes aussi sensible aux actualités et aux dernières particulièrement? Est-ce qu'elles sont incluses aussi dans cette conférence?
Absolument, obligatoirement. Je vous cache pas que je devais jouer quelques jours après le 7 octobre, le 13, à Alès, et je n'ai simplement pas pu. Parce que moi, je me suis demandé dans quel état j'étais suite cette monstrueuse attaque. Et je dois dire que j'étais pas en état de jouer. Jouer au sens théâtral aussi, c'est-à-dire jouer, ça veut dire s'amuser aussi. Parce que ça a l'air un sujet très très sérieux, mais en vérité, on s'amuse beaucoup. C'est très sérieux, mais on rit beaucoup. Et moi, je me suis quand même vraiment demandé comment je pouvais rire à ce moment-là. Je ne comprenais pas moi-même qu'est-ce qui se passait vraiment là-bas. Et il a fallu presque un mois, en fait, pour que je puisse reprendre. Et début novembre, j'ai pu reprendre la tournée avec ses représentations et je suis allé jouer à Pau. En fait, au contraire, les gens avaient besoin à la fois d'entendre toute cette histoire avec de la distance, c'est-à-dire celle que je mets moi dedans en racontant mon histoire, qui est drôle, qui est, voilà, des histoires aussi. Et en même temps, cette distance-là, elle me conduit à faire parler deux personnages qui sont Mahmoud et Moshe, un Palestinien et un Israélien, qui sont deux vieux amis inséparables. Métaphore de ces deux peuples qui sont sur le même territoire, eux-mêmes aussi inséparables. Eh bien, eux, bien entendu, parlent aussi de la situation actuelle. Et comment on en est arrivé là? Avec, oui, bah, c'est-à-dire Mahmoud, lui, il va dire, bah, tant qu'il y aura de l'occupation, il y aura de la résistance. On est bien obligé.
Dans le sous-titre « Comment j'ai démissionné du sionisme », est-ce que c'est un état d'être en Israël, d'être sioniste ou d'être dans cette appartenance à cette politique du fait que vous en démissionnez, il y avait une implication de votre part à un moment?
Ben, en fait, je peux dire oui, je l'ai été. Mais alors, j'explique et je raconte pourquoi et comment, en fait, dès la naissance, on est naturellement sioniste. Donc, enfin, les enfants juifs. Hein. À partir du moment où vous avez compris, il y a plusieurs fils qui sont tirés dans cette histoire. Il y en a un, comme je vous l'ai dit, autour de la notion même de fiction. Qu'est-ce que c'est qu'une fiction? Qu'est-ce que c'est qu'une histoire? Et comment le monde politique, hein, quel qu'il soit, et de tout temps, s'est emparé du récit, de l'objet narratif, à son service. Et donc, je raconte bien comment, quand un enfant naît juif, c'est-à-dire quand le groupe fait de cet enfant un personnage de sa fiction, eh bien, cet enfant, en grandissant, devient naturellement sioniste. Parce que le sioniste, le mouvement sioniste, s'est évertué à faire superposer deux histoires pour les confondre en un seul et même récit. Juif égale sioniste. En fait, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, non, c'est pas obligé. Mais après, moi, je pointe le nationalisme. Pas que le colonialisme, il y a aussi le colonialisme, mais le nationalisme, alors qu'il soit en France ou en Palestine ou en Israël, ben, il est l'objet, hein, on pourrait dire l'objet même de l'origine du conflit, des conflits. Parce que sortons des nationalismes, il n'y a plus de guerre, s'il n'y a plus de frontières. Donc, alors oui, bah bien sûr, on vit dans un État-nation, mais pas si vieux comme concept, hein, c'est 1789, l'État-nation. C'est la Révolution française. Donc, tout ça, bien entendu, je le traverse en le racontant, hein, au travers de mon histoire, de celle de mes parents, de leur souffrance. Et puis voilà, on essaye de. Enfin, moi, j'essaye sur le plateau à la fois de faire toucher la complexité de la problématique là-bas, parce que bien entendu, on ne peut pas réduire une chose complexe à une chose simple, c'est de la malhonnêteté, ça. Or, moi, j'aborde la complexité par la complexité, en me disant, ben voyez, c'est compliqué, mais alors on n'est pas complètement crétin, non? On est capable d'aborder une chose complexe et d'en parler et d'y réfléchir. Voilà.
Face à Israël, il y a la Palestine. Donc l'histoire d'Israël est quand même relativement connue. Celle de la Palestine, un peu moins. Est-ce que vous abordez justement ce qu'est la Palestine aussi dans le désir de ces populations?
Naturellement, je ne suis pas palestinien et à ce titre, il m'est difficile de me sentir autorisé, hein, de parler en leur nom. Mais par contre, moi je suis aussi humaniste et j'ai aussi une lecture politique de ce qui se passe là-bas, de ce qui s'est passé là-bas. Donc ma légitimité, elle n'est pas celle d'être un Palestinien, donc je parle peu finalement des Palestiniens. Mais j'explique que la complexité des peuples qui vivent sur ce même territoire. Et je le fais de manière très très rigolote parce qu'en fait, je fais la liste de l'ensemble des tendances. Voilà. C'est savoir si le personnage, il est juif ou arabe. Ça commence comme ça. Il est juif ou il est arabe? Oui, mais alors juif quoi? Un juif orthodoxe, laïque, réformiste, traditionnaliste. Bon, alors arabe. Oui, mais arabe quoi? Chrétien ou musulman? Alors chrétien, d'accord, mais copte, orthodoxe, apostolique romain, maronite, luthérien, anglican, ok, on va dire musulman. Ok, mais musulman chiite, sunnite, alaouite, soufiste. Donc voilà. Mais après, on va finalement décider qu'il est samaritain. Parce que les samaritains. En fait, les Samaritains, c'est une autre tribu encore que les Hébreux ou que les Arabes ou même que les Palestiniens. Parce qu'à l'origine, les Palestiniens sont des Philistins, c'est-à-dire des Crétois, qui ont été chassés de Crète par les Doriens à la fin de la guerre de Troie. Donc, alors, bien entendu, je vous raconte ça date de l'âge de bronze, hein, tout ça. Puis en plus, on peut imaginer que depuis le temps, avec les mélanges, bref, quand on reprend l'histoire, on se rend compte de la complexité. Quand on dit ah oui, mais là-bas, oui, les Juifs, d'abord, quels Juifs? Les Juifs de l'Est, d'origine, des Juifs d'origine du Maghreb, et encore une troisième catégorie qui sont les Juifs qu'on appelle les Mizrahim, les Juifs qui étaient dans le Moyen-Orient, mais et qui étaient là avant, eux-mêmes avant. Mais avant quoi? Bah, avant 48, c'est-à-dire avant la création de l'État d'Israël. Et qui n'étaient pas forcément des colons qui étaient partis de Russie ou de Pologne au début du XXe siècle. Ça pouvait être des gens qui vivaient là avant, depuis le temps de Jésus. Mais simplement, tu avais des populations qui mangeaient pareil, qui s'habillaient pareil, qui parlaient la même langue et qui avaient juste une foi différente. Et c'est tout. Alors. Il y a tout un discours qui tendrait à dire, mais non, mais la Palestine n'a jamais existé. Et pour preuve, avant l'État d'Israël, ben, c'était sous un protectorat anglais, puis avant les Anglais, c'était l'Empire ottoman, avant l'Empire ottoman, c'était l'Empire d'Orient, et puis avant, c'était Rome, et puis, bon, et avant, c'était les Grecs, et puis avant, c'était l'Égypte. Donc, il n'y a jamais eu de Palestine, ça n'existe pas. Ça, c'est bien entendu encore du récit. On voit bien comment, à un moment donné, le sionisme manipule des récits. Alors, en tant qu'outil politique, hein, mais le sionisme, pas plus et pas moins que les autres. Mais en l'occurrence, là-bas, oui. Voilà.
Michel Benizri, vous jouerez
Oui.
donc jeudi 23 janvier à partir de 18h. Il y aura l'ouverture des portes, un moment aussi peut-être pour échanger, et la conférence commencera précisément à 19h. Un spectacle qui dure environ 1h50, je crois.
Ouais, c'est ça, oui. Bon. Et puis,
Approximativement.
c'est vrai qu'après on peut discuter. Voilà,
Oui.
oui.
Et pareil pour donc à Aoust-sur-Scie, à la salle des fêtes, ça sera le 24 janvier et ce sera à partir de 19h15, hein, je crois bien.
Voilà. Et
Voilà.
alors, oui, moi, j'ai pas les horaires sous les yeux, mais si vous les avez, je vous crois.
Oui, je les ai pris avant. Et donc, je mettrai en lien aussi le site internet de cette structure qui propose des conférences gesticulées au travers de plusieurs dizaines d'artistes, interprètes.
280, même, on peut dire.
280 d'ailleurs.
Eh oui, à ce jour, oui.
Pour vous, c'est important cet aspect de promouvoir aussi les conférences gesticulées qui abordent tous les sujets de société ou d'actualité également,
Bien
j'imagine.
entendu. Oui, c'est très, très important. On a de nombreuses thématiques autour de l'alimentation, de l'agriculture, de la démocratie, de l'engagement citoyen, des alternatives, du militantisme, des luttes, du féminisme, de l'écologie, de l'identité, la laïcité, voilà, de la santé, le travail, beaucoup. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de thématiques comme ça. Et c'est vraiment intéressant parce que, bon, bah, sur le site dont vous donnerez le lien, vous allez voir, on a mis en place un agenda avec une carte interactive, ce qui permettent tout simplement de dire, ah bah tiens, je suis là, qu'est-ce qui se joue à proximité? Et ça, c'est vraiment utile parce que du coup, on a la possibilité de se dire, ah bah tiens, moi, je suis à tel endroit à tel moment, ou je connais des gens qui sont à tel endroit, proche d'un endroit où il va se jouer une conférence gesticulée, on n'a plus qu'à faire passer l'info. Et c'est vraiment un outil de pensée et moi, je dirais aussi d'émancipation. Voilà, la conférence gesticulée est un outil de pensée et d'émancipation.
Michel Bénizry, je vous remercie en tout cas de nous avoir donné un peu de temps sur RDVoix pour nous parler donc de votre spectacle Moi, Français, Juif, Arabe, et où, comment j'ai démissionné du sionisme. Et je
Voilà.
vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup.
Au
Au
revoir.
revoir.